5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
Bonjour à tous, bienvenue sur votre radio FM+. Nous sommes les élèves de la seconde du lycée Georges Pompidou qui allons vous présenter Ondes Lycéennes. Au sommaire aujourd'hui, Anaïs Boisville et Camille Fontana ont concocté un micro-trottoir sur la Coupe du Monde de foot. Ensuite, Mathias Prévost évoquera un sujet de société sur les jeux vidéo. Puis attention, interview exclusive par nos reporters en chef Adélie Pandreau et Léo Cano de Horror Kitchenin, première dauphine de Miss France 2016. Et enfin, une page culturelle consacrée à une poétesse contemporaine, Sophie Gélucas. Commençons donc par le premier sujet sportif. Anaïs et Camille pour se mettre dans l'ambiance, pause musicale, l'hymne officiel de la Coupe du Monde de foot.
Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag and count all the reasons we are the champions. There ain't no turning back. Saying, oh, 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 can't you taste the feeling? Saying, oh, 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 we all together singing. Look how far we come. Ready to people, a new day has just begun, and I wear my colors on my back. We created equal, one race and that's human. Can't wait till they all see that. Saying,
bonjour Camille Fontana et Anaïs Boisville. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette fameuse Coupe du Monde du coup ?
Bonjour Lucas Levasseur. La Coupe du Monde de football est un événement mondial qui existe depuis 1928, mais dont la première édition a eu lieu en 1930 en Uruguay. Cette année a eu lieu la 21e édition. Elle se déroulera en Russie du 14 juin au 15 juillet. Cette compétition a eu lieu tous les 4 ans. Il y aura au total 62 rencontres qui se joueront dans 12 stades de Russie. Les qualifications ont eu lieu le 25 juillet 2015 à Saint-Pétersbourg.
La Russie a été qualifiée d'office étant le pays organisateur de cette compétition. Elle se compose de 32 équipes réparties en 8 poules qui ont été tirées au sort le 1er décembre 2017 à Moscou. Ces poules sont nommées de la lettre A à la lettre H.
Dans quelle poule est la France ?
La France fait partie de la poule C avec l'Australie, le Danemark et le Pérou. Le premier match de la Coupe du Monde se déroulera le 14 juin à 17h à l'heure de Paris, entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Pour la France, préparez vos écrans et les pizzas, il aura lieu le 16 juin à midi contre l'Australie.
Donc vous avez fait un micro-trottoir, qu'est-ce qui ressort des réponses que vous avez collectées?
Alors on a fait quelques sondages, Camille elle va me dire les questions et moi je vais répondre.
La première question était, allez-vous regarder la Coupe du Monde 2018 et pourquoi?
Les réponses qui sortent le plus c'est oui. Et pourquoi? Parce qu'ils disent que c'est leur passion, qu'ils aiment le foot, qu'ils aiment la compétition entre les pays.
Quelle est l'équipe qui est ressortie?
L'équipe favorite qui est ressortie, c'est la France.
Le joueur favori?
C'est Antoine Griezmann.
Le plus beau joueur selon eux?
C'est Olivier Giroud.
Qui va gagner cette Coupe du Monde?
Alors c'est très mitigé, beaucoup de personnes sont pour l'Allemagne, mais aussi pour l'Espagne et la France.
Est-ce que vous allez regarder la Coupe du Monde féminine qui aura lieu du 7 juin au 7 juillet 2019 en France?
Et là aussi, la réponse est très mitigée, c'est ex aequo, beaucoup de gens vont regarder, mais aussi ne vont pas regarder. Parce que tout simplement, ils n'aiment pas le foot féminin, ils préfèrent le foot masculin.
Merci. Nous allons passer à un sujet de société. Bonjour Mathias Prévost.
Bonjour.
Donc, qui joue aux jeux vidéo?
Les personnes qui jouent aux jeux vidéo sont surtout les jeunes, mais il y a aussi les adultes et les personnes un peu plus âgées. Je vais vous le présenter sous forme de tranche d'âge. En 2017, en France, de 10 à 14 ans, il y a 95% des jeunes qui jouent aux jeux vidéo. De 10 à 18 ans, il y a 92%. De 19 à 24 ans, il y a 91% des personnes qui jouent. De 25 ans à 34 ans, il y a 73% des personnes qui jouent aux jeux vidéo. De 35 ans à 44 ans, il y a 70%. De 45 ans à 54 ans, il y a 51%. Et de plus de 55 ans, il y a quand même 46%.
Quels sont les jeux vidéo auxquels on joue le plus?
Les jeux vidéo les plus joués sont surtout les jeux en multijoueur, tels que les jeux en FPS, First Person Shooter, les jeux où vous êtes dans la peau du personnage, tels que Rainbow Six Siege, Counter-Strike Global Offensive. Il y a aussi les jeux de farming, de progression et de survie, tels que Dota 2, Ark et Warframe. Et les jeux qui pourraient représenter la réalité tels que GTA V.
Une question que tout le monde se pose, est-ce que les jeux vidéo sont mauvais pour la santé?
Alors oui et non, je vais vous dire les points positifs et négatifs. Alors les points positifs sont qu'ils sont bénéfiques pour les capacités cognitives et visuelles. Elles peuvent permettre l'apprentissage de capacités ou leur amélioration. Et les points négatifs sont que tout le monde dit que c'est le jeu vidéo qui rend violent, mais non, c'est plutôt le temps passé à jouer et non au type de jeu utilisé.
Donc merci Mathias Prévost. Maintenant, pause musicale avec Maître Gims et Vianney, la même. On a choisi cette musique qui nous invite à ne pas juger sur l'apparence et le physique.
Mes amis entendaient la vie que j'ai eue, où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes, les sages et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Hey!
On y range les gens qu'au fond jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de mille bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins et serré 10 000 mains. On peut aimer Brel et Meugui, aimer même nos ennemis.
Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ses lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque. Hey!
chérie. La vie c'est des envies, l'envie avant les avis.
Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même.
Vous êtes toujours sur FM+, dans l'émission Ondes Lycéennes. Maintenant, nos journalistes Adélie Pandreau et Léo Cano ont obtenu en exclusivité une interview d'Aurore Kitchena, première dauphine de Miss France 2016. Nous vous écoutons.
Bonjour, nous avons le plaisir d'accueillir en exclusivité Aurore Kitchena. Elle est née le 28 janvier 1995 à Clamart, c'est une reine de beauté française. Elle a été élue Miss Montpellier 2016, Miss Languedoc-Roussillon 2016, puis première dauphine de Miss France, et surtout, elle termine troisième du concours Miss Monde. Elle réside à Jacou, près de Montpellier. Elle possède des origines réunionnaises, mais ce n'est pas qu'un physique, elle fait également des études.
Donc en 2016, elle obtient un BTS Tourisme au lycée hôtelier Georges Fraisse de Montpellier. Durant sa préparation à l'élection de Miss France 2017, elle poursuit sa formation avec une troisième année d'études en licence de langues étrangères appliquées, où elle se spécialise en portugais. Elle a bien voulu répondre à notre questionnaire et vous allez pouvoir entendre ses réponses.
Comment êtes-vous arrivée au concours de Miss France ?
Alors, c'est un ami qui m'a poussée à le faire. Tout s'est passé sur Facebook. En fait, il y a une annonce écrite par le comité qui recherchait des candidates. Et quand j'ai vu ça, moi, je me suis dit que c'était pas du tout pour moi parce que j'étais timide, j'étais trop réservée pour monter sur scène. Et la veille de l'élection de Miss Palavas, le comité m'a contactée et m'a convaincue à participer à l'élection. Et j'y suis allée le lendemain avec mon trac et finalement ça l'a fait.
Dans le concours, est-ce qu'il y a une certaine rivalité entre les candidates ou vous vous entendez toutes bien ?
Alors ça dépend. Ça dépend des années, ça dépend des promotions. Il y a parfois certaines filles s'entendent mal, il y a des rivalités. En règle générale, il y a toujours un esprit de compétition parce qu'on est dans un concours de beauté. Mais moi, j'ai un peu un caractère où je suis un bisounours, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et du coup, j'ai tendance à pas m'en rendre compte. Et c'est après les élections que je me suis rendu compte des certains petits coups bas ou des certaines petites choses qu'il y a pu avoir, mais ça restait bon enfant.
Peut-on vivre du concours Miss France ? Les portes du travail sont-elles nombreuses avec ce concours ?
Alors, vivre du concours Miss France, enfin, il y a deux choses. C'est qu'après Miss France, on continue à travailler pour le comité. Alors, il y a des comités plus actifs que d'autres. Moi, j'ai la chance d'avoir un comité qui est très actif, qui nous fait beaucoup travailler. Mais certains comités sont moins actifs. Et donc, on peut pas en vivre. On fait des activités comme ça. On est parfois rémunéré, mais ça permet pas d'en vivre. Par contre, l'aventure Miss France permet après d'avoir parfois des contrats professionnels, des opportunités. Et du coup, ça nous permet là, par contre, d'avoir un travail et d'en vivre après.
Quel sentiment avez-vous eu après le titre de deuxième dauphine ?
Quel sentiment ? Ben, en fait, sur le coup, j'étais tellement heureuse parce qu'on est sur un petit nuage le soir de l'élection. On est toutes les deux avec Alicia, on se tient les mains et on est transcendés par toutes les émotions de toute la soirée, le stress, l'adrénaline, tout ça. Et en fait, sur le coup, on est juste transporté et je ne sais pas trop comment le décrire parce que c'est une émotion que je n'avais jamais ressentie auparavant et à mon avis que je ressentirai peut-être jamais encore. Et on est vraiment sur un petit nuage et on le reste longtemps après.
Avez-vous eu une préparation physique ?
Oui, j'ai eu un coach qui m'a suivi. Il m'a préparé sur le plan physique. Donc, on a fait beaucoup de sport, du renfort musculaire, du cardio-boxing et il me faisait aussi travailler sur le côté mental. On faisait des séances de sophrologie pour me préparer un peu au stress que j'allais ressentir, aux appréhensions que je pouvais avoir et à tout ça.
Quel effet ça a fait sur votre famille ?
Ma famille, elle a été, elle m'a soutenue, elle m'a vraiment soutenue à fond et ils étaient très contents. Après, Après, mon papa, je ne vis pas avec, donc il était moins impliqué dans le concours, mais il m'a aussi soutenue et il était très fier. En règle générale, tout le monde était super fier.
Est-ce qu'il y a une différence de niveau entre le concours Miss France et le concours Miss Univers ?
Alors oui, c'est deux concours qui sont différents. Miss France, c'est Miss France. Et Miss Univers, c'est l'étape d'après. C'est un concours qui est américain. Et en fait, c'est une fois qu'on a été Miss France, on va soit à Miss Monde, soit à Miss Univers, selon les dates, les disponibilités. Et si le comité pense qu'on va être mieux placé à Miss Univers ou à Miss Monde. Et du coup, là, la Miss France, cette année, est partie à Miss Univers. Et du coup, moi, comme j'étais sa première dauphine, je suis partie à Miss Monde.
Et après avoir participé à ce concours, avez-vous des contraintes ou des obligations dans la vie de tous les jours ?
Alors oui, j'ai des obligations, mais c'est des obligations que j'ai choisi d'avoir. Je travaille pour le comité Miss Languedoc-Roussillon, donc on a des shows. Et pour chaque élection, en fait, il y a chaque élection locale. On a des shows, donc on danse. Donc pour chaque date, on doit être là. Donc ça, c'est mes obligations. Mais c'est des obligations qui sont assez chouettes, puisque c'est du plaisir, quoi. On danse et voilà.
Et juste être première dauphine, est-ce que vous avez une certaine rancœur pour la Miss France élue ?
Pas du tout, parce que je m'attendais pas à être première dauphine ou à être dans le top 5. En fait, quand on se lance dans l'aventure, on a envie d'aller le plus loin possible, d'être Miss France, d'être Miss Monde même. Mais on ne s'imagine pas arriver jusque-là. Enfin, c'est un peu paradoxal, mais on donne le meilleur de soi-même pour y arriver, mais on n'a pas forcément l'impression qu'on va y arriver. Et en fait, à chaque fois qu'on arrive dans un top, c'est trop bien. Ça nous remplit de joie. Et donc, d'être première dauphine, j'étais sous le choc. Et puis, il y avait toute l'ambiance de la soirée qui faisait que j'étais sur mon petit nuage.
Vous n'avez pas eu peur de passer à la télé ?
Si, au début, c'était ma grande crainte. Et c'est pour ça qu'à la première élection, je voulais pas forcément me présenter. J'avais peur parce que j'étais très timide. Et toute la médiatisation, la notoriété qu'on peut avoir en étant Miss, c'est ce qui me faisait le plus peur. Et finalement, une fois qu'on y est, ça nous apporte beaucoup d'adrénaline, beaucoup d'émotions qu'on n'avait jamais ressenties avant. Du coup, c'est plus du plaisir que de la peur.
Avant le concours Miss France, est-ce qu'il y a une préparation entre vous toutes ? Est-ce que vous vous voyez ou est-ce que vous discutez avant le concours ?
Oui. On a une conversation de groupe qu'on s'était formée sur Facebook, qu'on a encore aujourd'hui. Et du coup, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle Miss élue, on l'a rajoutée dans la conversation et puis on discutait. Alors, vous avez eu cette information, vous avez eu cette indication. Et puis on discutait, on s'envoyait des photos de nos régions. On partageait beaucoup sur Facebook.
Alors moi, j'ai une question sur le cheminement, c'est-à-dire qu'on commence par être Miss Palavas, par exemple. Après,
oui. Après Miss, nous, on a la demi-finale pour l'élection de Miss Régionale. Donc Miss Languedoc-Roussillon. Mmh. Et après, une fois qu'on est passé à la demi-finale, on passe à Miss Languedoc-Roussillon. Et si on est élu, on part à Miss France.
D'accord.
Mais c'est pas pareil dans tous les comités. Par exemple, Miss Île-de-France, je crois qu'ils n'ont même pas d'élection locale. Ils ont directement Miss Île-de-France. Et parfois, il n'y a pas de demi-finale. C'est quelques élections locales et puis la finale.
Les critères qu'il faut avoir pour participer à ce concours ?
Il faut mesurer au moins 1m70. Avoir 18 ans, entre 18 ans et 24 ans. Et puis après, être une femme, être née femme. Ne pas être mariée, ne pas avoir eu d'enfant. Et ne pas avoir de tatouage, mais ça a un peu changé. On peut avoir un tatouage, mais il faut qu'il soit discret et cachable.
Après, il y a des critères de... Je sais pas, d'hygiène de vie, pas fumer, pas boire, ça fait partie.
Oui.
De...
Oui, alors, enfin, oui, on peut fumer et boire, mais il faut pas le montrer. Il faut pas que ça se sache. Donc, non, c'est toléré, mais on doit pas le montrer. Par exemple, nous, dans notre comité, si une d'entre nous fume et que le délégué le voit, on a des sanctions. Et par contre, on peut fumer, mais il faut aller se cacher. Certaines d'entre nous, enfin pas cette année, mais les années précédentes, certaines d'entre nous fumaient et partaient de temps en temps se cacher, mais Le délégué le savait, mais il disait rien si c'était pas devant les clients, devant les organisateurs de la soirée.
Oui, par exemple, une photo avec une cigarette, c'est...
C'est moyen.
C'est moyen.
C'est moyen. Et pour l'alcool, pareil. On peut boire, d'ailleurs, une miss, quand elle va dans une réception, on lui offre une coupe de champagne, un verre de vin, elle goûte parce qu'il faut, mais il faut pas, voilà, il faut pas être bourré ou être éméché. Il faut se tenir.
Et par rapport à la notoriété, enfin, ça a dû vous changer le quotidien?
Ça change beaucoup. C'est... Ça change beaucoup, mais en même temps, on n'est pas des grandes stars hollywoodiennes, donc ça va, on reste quand même... Quand on se balade dans la rue, c'est assez rare qu'on soit reconnu. Après les concours Miss France et Miss Monde, c'était plus fréquent, mais après, ça se tasse. Mais là où ça change, c'est sur les réseaux sociaux, on est très suivis du jour au lendemain, on a des followers, énormément de followers. Et puis après, de temps en temps, on nous reconnaît, mais c'est rare.
Et vous avez eu des propositions pour le cinéma, le théâtre
Le cinéma, alors plutôt pour la télé, parce que je travaille un peu pour France 3 Occitanie, et je fais des reportages sur des femmes qui exercent des métiers d'hommes, alors il faut le mettre entre guillemets, mais qui sont dans des milieux masculins, voire même confrontées à des comportements machos. Et ça me plaît plutôt bien. Et après, sinon, à Miss Monde, il y avait le Mister Monde qui était indien, qui était Mister Inde avant. Et je sais pas pourquoi, depuis Miss Monde, j'ai plein d'Indiens qui m'ont suivi sur les réseaux sociaux. Et il y en a plein qui me disent « Tu devrais venir en Inde faire du Bollywood. » Et dont Rohit, donc le Mister Inde, qui m'a dit « Viens en Inde, tu devrais essayer. » Et donc là, bientôt, normalement, je pars en Inde, mais pas forcément pour le Bollywood. Ce serait plus pour aider dans une association. Mais c'est en train de se faire, mais c'est pas sûr. Enfin, c'est pas encore sûr que je parte.
Que vous a apporté cette rencontre ?
Donc cela a été une rencontre très enrichissante. Elle nous a paru très sympathique.
D'accord. Merci Locano et Adélie Pandreau. Maintenant, terminons par un sujet littéraire avec deux élèves de Terminale L, Émilien Pagès et Marie-Lou Ollier, qui vont nous présenter un écrivain, une poétesse d'aujourd'hui, Sophie Gelucca. Je laisse à Locano et Adélie Pandreau le soin de les interroger.
Donc tout d'abord, Sophie Gelucca est une poète nantaise qui est née en 1968 à Saint-Nazaire. Elle a écrit son fameux recueil « Nègre blanche » aux éditions Le Dé Bleu. Ce recueil a reçu le prix de poésie de la ville d'Angers. Elle partage son écriture entre une démarche autobiographique et intime et une approche sociale et documentaire. Sur quoi est fondée l'écriture de Sophie Gelucca ? Pourquoi avez-vous choisi cet auteur ? Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce livre ? Qu'a-t-il de si particulier ?
Merci de nous recevoir sur votre plateau. Alors l'écriture de Sophie Gelucca est construite surtout sur des poèmes parlant de procès auxquels elle a assisté et qui montrent des personnages types, des personnages qui vont être touchés, qui vont ressentir des émotions et qui vont raconter au travers de ces procès leur histoire.
Ce qui nous a particulièrement touchés, c'est tout d'abord qu'on pouvait complètement se reconnaître des fois dans certains personnages malgré les crimes, que ça pourrait être des personnages de notre famille, de notre entourage. Et donc ça nous a permis, grâce à la rencontre, à la comédie du livre, de pouvoir s'intéresser à d'autres œuvres de sa personne et donc d'essayer de réécrire ses poèmes en prose en théâtre.
Est-ce que ce livre vous a-t-il donné envie d'écrire ?
Oui, en effet, ce livre nous a donné l'envie d'écrire et nous avons vraiment apprécié pouvoir faire ce travail de réécriture, ce travail d'adaptation théâtrale.
Et puis surtout ce travail en groupe qui nous a permis vraiment de mélanger nos façons d'écrire et aussi de nous apprendre vraiment, parce que écrire seul c'est une chose, mais écrire en groupe c'est aussi vachement différent, puisque on n'a pas tous la même manière de dire les choses. Et après personnellement c'est vrai que j'ai beaucoup adoré écrire cette pièce de théâtre, parce que nous jouons aussi au théâtre et donc c'est aussi une autre manière d'avoir une vision du théâtre.
En quoi consiste le travail que vous avez réalisé ?
Alors, il consiste à... On s'est basé sur les poèmes, donc sur les procès, et nous les avons adaptés en pièces théâtrales. Donc, en fait, nous avons essayé de sélectionner plusieurs poèmes qui semblaient similaires au niveau des personnes, des attitudes, des crimes. Et ça nous a permis donc d'essayer de monter une petite pièce autour d'une salle de réunion, un truc de parole, un groupe de parole. Et
Oui, en effet, c'est dans un groupe de parole. On a aussi plusieurs scènes où on retrouve les prisonniers qui vont être juste à deux, par exemple. Ils vont pouvoir à la fois discuter de leurs sentiments, de leur état, de ce qui s'est passé avant, après, de parler de leur histoire et de leur passé.
Donc nous avons vraiment une construction des personnages, on a vraiment essayé de leur donner vie, de leur donner de la matière et vraiment d'en faire quelque chose d'assez bien.
Merci. Et pour finir, comment êtes-vous passé de la poésie au théâtre ?
Ce travail de passage d'adaptation, de mon avis, personnellement, je trouve qu'il a été fait assez facilement. Et nous avons essayé de garder des phrases, de garder des moments importants des poèmes, et notamment dans un slam, si tu veux bien le lire, Marie-Lou.
Mon père est un personnage de roman. Il n'y a pas de héros, il n'y a pas de perdant. J'aurais préféré que ça ait plus de gueule. Mon père vole, mon père n'était pas quelqu'un de bien. Mon père manipulait les mots comme les armes. Mon père a fait la guerre, et la guerre ne fabrique pas des hommes, elle les détruit. Il a fait comme son père, pour se racheter aux yeux de ma mère. Mon père a fait la guerre, mon père a pu être un héros quelques minutes. Mon père a fait la guerre et il n'a cessé d'être en guerre après, contre l'ordre, contre la famille, contre le travail, contre lui-même. Mon père était quelqu'un de bien, mon père est cet homme qui nous imposait le silence au petit déjeuner. Mon père, cet homme qui boutonnait mal nos manteaux, toujours un bouton en trop, en haut ou en bas, enfant de travers. Je voudrais qu'il meure, je voudrais qu'il crève. Mon père, il n'est pas le père dont on puisse rêver, mais c'est le seul qu'on a. Faire avec. Mon père est cet homme qui ment, mon père est cet enfant qui frappe. Mon père est cet homme qui tient une arme. Mon père est celui qui abandonne ses enfants. Mon père est ce voleur. Mon père n'est pas quelqu'un de bien. Mon père est celui qui ne se souvient de rien. Mon père est cet homme de plus en plus ivre. Mon père est un grand fleuve. Mon père est cet homme seul. Mon père est ce type qui ne s'excuse de rien, qui a toujours raison. Mon père n'est pas un ange. Mon père n'a pas de loi. Mon père, ôtant le ciel, sa vie n'était pas assez réelle.
Merci pour ce slam.
Merci à tous, cette émission se termine. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Merci à la radio FM+, à Madame Martin Lefebvre. Très bonne journée à tous.
5, 4, 3, 2, 1. We have ignition, strap in. You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.